BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission. Beaucoup d'invités, beaucoup de sujets dans BFM Crypto, le club. On va parler de Bitcoin, de quantique, d'adoption, d'impôts. On a vraiment plein de choses à se dire. Vous n'oubliez pas de nous écrire si vous avez des questions. crypto@bfmbusiness.fr. On répond à vos questions tous les jeudis, vous le savez, pendant une demi-heure. Le club BFM Crypto, je ne perds pas de temps. C'est parti. Maxime, je commence par vous. On regarde un petit peu le cours aujourd'hui, le cours du Bitcoin qui remonte et qui s'approche des 75 000 $. Maxime Euzé.
Et si nous pas en bear market. Depuis son plus haut du 7 octobre, le Bitcoin a perdu près de la moitié de sa valeur. Mais il semble avoir atteint un point bas en février, autour des 63 000 $. Et surtout, son cours a rebondi ces derniers jours, grâce donc à la fin de la guerre au Moyen-Orient, qui redonne goût aux investisseurs pour les actifs risqués. Et un deuxième élément dans cette situation, c'est l'espoir d'une baisse des prix de l'énergie qui pourrait amener la Fed à baisser ses taux. Et ça, c'est très bon pour les actifs qui ne donnent pas de rendement, comme le Bitcoin.
Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Vous êtes journaliste à la Tribune, j'ai oublié de le dire, mais quelles sont les perspectives d'évolution?
Alors, c'est toujours compliqué de prévoir le futur, mais on a quand même quelques éléments. Si on regarde les autres cycles haussiers du Bitcoin, systématiquement, après 2 ans de hausse, on a eu 1 an de bear market, et c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui, puisque le dernier bull run a eu lieu en début 2023. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont quand même changé avec l'arrivée des ETF, des banques et surtout de la régulation aux États-Unis et en Europe. Cela a redonné de la confiance, a apporté beaucoup de confiance dans la crypto. Et cette institutionnalisation des cryptos amène plusieurs experts interrogés par la Tribune à être optimiste et à voir finalement les cours monter d'ici la fin de l'année. Ce, notamment, si le Bitcoin réussit à retourner au-dessus des 90 000 $. Attention toutefois, tous ne sont pas d'accord. Antoine Andréani, analyste chez XTB, pense lui que le Bitcoin est toujours en bear market et qu'il pourrait tomber à 44 000 $ cette année.
Dans cette émission, il y a aussi Jonathan Erskovici qui est à distance, fondateur de StackInsight. Je sais que j'ai promis, Jonathan, de ne pas vous poser cette question sur les cours, ça vous agace. Mais là, vous voyez, Maxime me donne une occasion de réaction là-dessus.
Sandra, et vous savez que j'ai beaucoup de plaisir à y répondre, n'est-ce pas? Donc moi, effectivement, je suis plutôt une personne, et c'est ce qu'on dit à tous nos clients chez StackInsight, de voir l'investissement en Bitcoin dans une logique à long terme. On conseille de conserver Bitcoin au moins 4 ans, qui fait partie des cycles de Bitcoin. Évidemment, on ne peut que se réjouir de l'augmentation du prix, mais nous, par exemple, chez StackInsight, le mois de février a été un mois record, parce que nos clients, justement, sont éduqués. Et ils comprennent que lorsque Bitcoin a atteint des points bas comme celui-là, c'est justement un bon moment pour se renforcer. Mais on est bien dans une logique d'investissement à long terme, d'investissement progressif. Donc évidemment, l'achat ponctuel est quelque chose qu'il faut être, il faut utiliser avec opportunisme, mais bien se positionner dans une logique d'investissement à long terme.
Louis-Alexandre, un petit mot.
Nous verrons Bitcoin à 1 million de $. À ce moment-là, que vaudront 1 million de $? On va se concentrer sur des grands cycles. Pour moi, on est toujours en bear market et une hirondelle ne fait pas le printemps, mais on est en zone d'achat.
Vous voyez, à chaque fois qu'on vous montre ce graphique, c'est un graphique avec un recul de 3 ans. On vous montre plus celui qui date de la semaine dans cette émission, parce que c'est important justement d'avoir du recul sur les cours et de voir cette progression dont on parle très souvent. Pauline Armandet, avec vous, on parle d'adoption. L'Observatoire de la FinTech qui publie ce mardi un panorama sur les sociétés crypto en Europe. Quels sont les principaux enseignements de cette étude, Pauline?
Alors déjà, ce qu'on apprend, c'est qu'on a 650 sociétés crypto qui existent en Europe et qui emploient plus de 37 000 personnes. Donc c'est un marché qui, visiblement, est porteur. Depuis 2013, ces sociétés ont levé 13,4 milliards. Donc en fait, les sociétés crypto n'ont pas à rougir par rapport aux géants américains. Oui. Et l'étude se focalise aussi sur les différentes phases des levées de fonds. Ce qu'on apprend, c'est qu'entre 2013 et 2015, donc quelques années après la création du Bitcoin, là, les investisseurs, ils étaient assez prudents à l'étiqueté crypto. Mais on a eu cette phase d'explosion, d'euphorie en 2021. Tout le monde s'en rappelle avec la hausse du marché crypto et donc avec 4 milliards d'euros qui ont été investis dans ces sociétés. Et puis, depuis 2022, c'est vrai, avec la chute de FTX, de l'écosystème Terra Luna, là, de nouveau, les investisseurs ont eu tendance à être un peu prudents à l'écart du marché. Et c'est pour ça qu'on remarque que chaque année, année, il y a un peu moins d'opérations de levée de fonds à l'égard de ces sociétés. Mais le marché s'est aussi assaini et les investisseurs en fait se sont concentrés sur des domaines, notamment il y avait une émission qui était consacrée hier à ce sujet-là, mais sur les sociétés spécialisées dans la sécurité, oui, et aussi sur les stablecoins. Donc ce qui fait conclure l'étude sur une meilleure structuration et un marché plus mature en 2026.
Ça se structure
aux yeux des investisseurs.
Vous l'avez dit effectivement, ça s'institutionnalise. Quel est le champion d'Europe dans le domaine des financements?
Alors c'est le Royaume-Uni. Pas plus membre de l'Union européenne.
Voilà, bon, géographiquement dans l'Europe.
Mais en tout cas, voilà, il coûte plus de 426 opérations et plus de 5 milliards d'euros levés depuis 2013. Ensuite, on a l'Allemagne et la Suisse. Et quand même, en quatrième position, on a quand même la France, qui est assez actif en la matière, avec 97 opérations et plus d'un milliard d'euros levés, on a quand même, notamment avec la loi PSAN, on a eu beaucoup de startups qui se sont senties en sécurité aussi pour se déployer en France.
Le cadre est plus safe. Quelles sont les perspectives d'évolution du secteur, Pauline Armandet?
Alors, ce que note l'étude, c'est qu'on a quand même une grande majorité des sociétés, plus de 562, qui comptent moins de 50 employés. Donc, l'idée, selon les experts, c'est que vraiment ces sociétés se développent aussi à l'avenir. Donc, déjà une évolution en termes de taille. Et l'autre évolution est plus réglementaire, d'après en fait les auteurs de l'étude, avec l'entrée en vigueur officielle de MiCA, ça permettra vraiment de créer un vrai marché européen des crypto-monnaies en Europe et donc de faire émerger le secteur.
Maxime Zé, un commentaire.
D'un autre côté, pour revenir sur le point de MiCA, on est aussi dans un moment où ça va coûter de plus en plus cher de devenir une entreprise crypto qui va devoir se conformer à la loi. Donc moi, je me pose quand même la question de est-ce que 2026 et 2027 ne seraient pas des années de restructurateurs où justement les gros vont manger les petits, sachant qu'il y a aussi les banques qui rentrent dans le système.
Ouais, on est en train d'observer le secteur. Louis-Alexandre, vous avez un avis sur à quoi va ressembler ce secteur dans 6 mois, 1 an?
Je suis bien capable de le dire maintenant, après le prix. Bien incapable sur beaucoup de choses. Non, la concentration est inévitable. L'AMF d'ailleurs est allée demander aux acteurs français qui n'étaient pas en train d'obtenir le CASP de mettre en place un plan de sortie. De toute façon, c'est une concentration qui est inévitable, qui est utile. Le tout, c'est qu'il faut espérer avoir des indépendants solides en face des banques qui sont elles qui préfèrent tuer la concurrence.
Oui, les acteurs natifs du secteur et les plus solides et les mieux réglementés effectivement, et les entreprises de ce secteur, pour les dernières sont encore dans les dernières semaines du dossier MiCA. Jonathan Erskovici, on a parlé de Bitcoin, on a parlé d'adoption. Vous, le Bitcoin, vous voyez un petit peu plus loin et on revient sur ce sujet du quantique. On en a parlé ces derniers jours. Est-ce que le quantique menace les blockchains? C'est ce que dit Google. Ce qu'elle ne fait pas, en revanche, au fond, c'est de dire si Bitcoin ne serait pas le mauvais coupable dans tout ça.
Alors complètement, Sandra, on a beaucoup, beaucoup parlé de la menace quantique et est-ce que Google, finalement, allait casser Bitcoin? Donc moi, je pense qu'il faut remettre quand même ce débat dans le bon ordre, parce qu'on entend évidemment beaucoup de réactions. On pourrait croire que le quantique menace surtout Bitcoin. En réalité, si le quantique devient un vrai problème, il ne menacera pas seulement le Bitcoin, et il menacera beaucoup plus largement toute notre infrastructure numérique, parce que finalement, il y a énormément de choses qui sont invisibles, on s'en rend même pas compte. Donc tout le système bancaire, les emails, les messageries sécurisées, les mots de passe, les données sensibles. Donc en gros, voilà, pour moi, le vrai sujet, c'est pas si Bitcoin est vulnérable, c'est quels sont les systèmes qui seront capables de s'adapter finalement à cette menace quantique. Et suite justement à l'annonce de Google la semaine dernière.
Le sujet est vraiment une menace, je veux dire, faut prendre ça au sérieux, le quantique qui arrive sur les blockchains.
Alors, c'est même une menace extrêmement sérieuse. Et tous les gros du secteur, que ce soit encore une fois Google, IBM, se préparent à justement cette infrastructure post-quantique. Donc, le quantique pourrait justement remettre en cause tout un tas de systèmes cryptographiques, tous les systèmes, y compris Bitcoin. Donc, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, on n'en est pas là. Ce risque existe, mais il existera plutôt dans 3 ou 4 ans. Et encore une fois, Bitcoin n'est absolument pas le seul à être concerné par ce risque, et c'est bien toute l'infrastructure numérique qui est concernée.
Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus large au final, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Voilà, c'est ça, parce que encore une fois, on va être très pragmatique pour ceux qui nous écoutent, mais quand vous connectez à votre banque, quand vous envoyez un email sécurisé, quand une entreprise protège ses données, quand un État sécurise ses communications, tout cela repose sur des briques cryptographiques. Donc voilà, donc c'est absolument pas un problème uniquement lié à Bitcoin, mais bien justement un problème lié à toutes les infrastructures numériques qu'on utilise au quotidien.
Mais vous avez l'impression, en bon maximaliste, qu'on se concentre justement spécifiquement sur Bitcoin?
Bah alors, c'est vrai que ça on peut le regretter, mais presque on peut se dire que c'est une bonne nouvelle dans le sens où Bitcoin concentre l'attention médiatique, c'est extrêmement visible, il y a beaucoup de valeur. Donc effectivement les gens souhaitent parler de Bitcoin, sauf que la grosse différence avec les autres systèmes, c'est que Bitcoin lui c'est un protocole ouvert qui peut évoluer. Donc il y a ce qu'on appelle des BIP, donc des Bitcoin Improvement Proposal. Donc ce sont des dispositifs qui permettent justement à la blockchain Bitcoin d'être débattu publiquement et justement d'évoluer par rapport à cette menace quantique, et le consensus justement de Bitcoin le permet, ce qui n'est pas forcément le cas justement des autres systèmes, on va dire plus institutionnels, qui auront tendance à bouger très 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 lentement.
Donc on se concentre sur Bitcoin, mais on voit pas que ce Bitcoin finalement pourrait être plus agile que les autres systèmes.
Voilà, et c'est ça qui est extrêmement réjouissant pour le Bitcoiner que je suis, parce que effectivement dans l'inconscient collectif, on a tendance à croire que Bitcoin c'est plutôt quelque chose de fragile, d'expérimental ou de risqué. C'est exactement le contraire qui se passe, parce que ce sont justement les systèmes les plus institutionnels, les plus lourds, les plus centralisés, qui sont les plus lents à transformer justement. Donc il faut faire attention à pas inverser les choses. Le vrai risque n'est pas seulement d'avoir une faiblesse cryptographique, le vrai risque c'est de ne pas pouvoir corriger cette faiblesse à temps. Et de ce point de vue-là, Bitcoin a de réels atouts.
Vous nous dites en revanche que c'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire.
Alors voilà, et donc ça a été toute l'actualité d'ailleurs de la semaine dernière. Alors je ne sais pas si vous en avez parlé en plateau, mais il y a eu deux grandes mises à jour, en tout cas deux propositions justement de mise à jour du réseau Bitcoin. Donc je ne vais pas les détailler là parce que c'est assez technique. Et d'ailleurs, pour info, on a tourné un podcast sur la chaîne Surfing Bitcoin avec le CTO de Ledger qui sera publié la dimanche prochain. Donc on rentre dans le détail là-dessus, mais de manière assez simplifiée. Encore une fois, Bitcoin a été conçu pour évoluer, et justement il y a tout un tas de dispositifs qui ont été justement proposés pour faire face à cette menace post-quantique. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Contrairement à d'autres systèmes qui eux n'ont pas cette capacité d'évolution, Bitcoin lui justement à cette capacité d'évolution et on ne peut que s'en réjouir.
Et une menace bien plus large, effectivement. Il faut savoir que pendant votre chronique, Louis-Alexandre de Froissart opine du chef. Vous êtes complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Oui, surtout on oublie de dire que Google a beaucoup travaillé sur la problématique de calcul, des mathématiques, mais n'a aucune avancée sur la machine. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit qu'il serait plus facile de faire une attaque de telle ou telle manière, mais aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous voulez faire un calcul de force brute avec du quantique, vous devez avoir des qubits qui sont stables, qui viennent stabiliser ceux qui sont instables et qui font des calculs. Donc, plus vous allez avoir une puissance de calcul importante, plus ça va être instable et plus il vous faut dépenser d'énergie. Donc, ce qui nous fait dire qu'on a, il sait pas, il faut pas s'endormir, mais on a encore un petit peu de temps pour trouver les bonnes solutions qui seront aussi des solutions de gouvernance par rapport au Bitcoin gelé.
Ça a néanmoins finalement réveillé vos interrogations, Maxime Zé. Vous vouliez poser une question?
Oui, dans un système centralisé, il y a en effet moins de liberté et ça peut être plus lent. D'un autre côté, si une banque décide du jour au lendemain de changer ses règles, elle met à jour les comptes de ses clients n'ont rien à faire. Là, dans Bitcoin, la responsabilité est donnée à ceux qui ont des clés Ledger. Que se passe-t-il si il y a un fork, une mise à jour de la blockchain Bitcoin qui a des bugs? Est-ce la responsabilité des plateformes qui hébergent les cryptos? Est-ce la responsabilité de celui qui a une clé Ledger? Voilà, moi ça me fait quand même poser beaucoup de questions sur les risques de la décentralisation.
Jonathan, vous avez une réponse à ça?
Alors oui, complètement, et encore une fois ce que je disais tout à l'heure, donc merci Maxime pour cette perche, mais justement on a interrogé le CTO de Ledger sur cette question-là, et donc encore une fois le podcast sort ce dimanche, mais réponse rapide, les utilisateurs de Bitcoin n'auront strictement rien à faire. Alors effectivement, vous avez raison de vous poser ces questions-là sur ce que ça implique en termes de fork, etc. Mais à un moment donné, justement, le consensus va établir justement quel est le vrai Bitcoin si jamais on se retrouve dans cette situation-là encore une fois. Et en tout cas, les utilisateurs n'auront pas grand-chose à faire à ce moment-là, d'après encore une fois le CTO de Ledger, sachant que moi, évidemment, je n'ai pas la compétence pour pouvoir répondre de manière aussi précise que Charles Guillemet, le CTO de Ledger.
Merci pour ces précisions, Jonathan. Louis-Alexandre de Froissart, donc gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine, vous vouliez revenir sur Satoshi Nakamoto, n'est pas celui que vous croyez. Alors, est-ce que vous revenez spécifiquement sur l'identité qu'on lui a donnée il y a quelques jours, suite à cette enquête d'un journaliste américain, mais pas seulement?
Oui, en fait, c'est un sujet qui me passionne, non pas forcément pour savoir de qui il s'agit, comme personne, mais quel est son profil. En fait, parce que la création de Bitcoin est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est une question de lecture, hein, une lecture que l'on peut avoir sur les textes qu'a écrit Satoshi. C'est aussi un podcast qui a été tourné par UrbanTech 21 qui nous permet de dresser un profil psychologique et un profil technique et technologique de qui est Satoshi. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas Adam Back. D'abord, c'est pas un cypherpunk. Tout le monde cherche du côté des cypherpunks. Moi, ma conviction vient du fait que c'est quelqu'un qui s'est adressé aux cypherpunks parce qu'il savait qu'on pouvait l'écouter, qui avait les capacités de compréhension de ce côté-là, mais pour moi, c'est pas un cypherpunk. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est quelqu'un qui, au niveau économique, est brillant, voire brillantissime, avec une patte de l'école d'économie de Chicago, plutôt l'équivalent d'un master ou d'un doctorat. Et donc ça encore, ça disqualifie un certain nombre de personnes. Ensuite, il a, dès le départ, il dit qu'il a commencé à travailler sur Bitcoin en 2007, mais dès le départ, il a remarqué quoi? Que tous les essais précédents se sont heurtés à une problématique de personne ou de réglementation. Donc il s'est dit deux choses, il ne faut pas qu'on sache qui c'est, et il ne faut pas que je m'adresse à une réglementation. Et en faisant ça, en travaillant son anonymat dès le départ, il ne faut pas oublier que pour avoir une adresse mail jetable, il a envoyé du liquide dans une enveloppe par rapport à cette question d'anonymat. Dit par cet exemple, que Bitcoin suffit pour une crypto qui est anonyme ou en tout cas pseudonyme si on fait le même effort que lui sur l'anonymat. Alors, sans aller aussi loin que lui, mais faisons attention à nos comportements et Bitcoin suffira pour quelque chose qui est en tout cas pseudonyme et non pas forcément anonyme. Il a aussi rapidement, comme un entrepreneur, fait confiance à des inconnus. Quand il demande à Martin Malmy de créer Bitcoin Talk, de créer le site internet qui va être quand même très important, c'est là où on va tout échanger, c'est un échange de mails qui lui permet de lui faire confiance. Ça, c'est quand même unique dans le fonctionnement. Et puis pour terminer, on peut dire que son retrait son retrait de la vie publique, en quelque sorte, dissipé dès le départ. Dès le départ, il avait prévu de disparaître. Et c'est ce qui rend cet homme incroyablement intéressant à comprendre, non pas pour savoir qui il est, mais pour savoir quel est son profil.
C'est vraiment une énigme qui va alimenter les débats encore plus pendant plusieurs années, d'autant qu'il y a des questions effectivement sur l'avenir de Bitcoin. J'ai pas le temps de vous faire tous réagir là-dessus, mais je suis sûre qu'on reviendra sur ce sujet. Votre coup de gueule aujourd'hui, Louis-Alexandre de Froissart, c'est l'administration fiscale qui veut en savoir toujours plus sur notre patrimoine.
Alors, je suis sur une ligne de crête et je ne souhaite pas encourager les gens à désobéir à la loi fiscale. Bon, voilà, ce disclaimer étant mis au départ, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que quand on déclare ses plus-values crypto et donc Bitcoin, on se réfère à l'article 150 VHBIS. Et dans cet article-là, on dit que si on a fait une dépense, imaginons que j'ai utilisé ma carte Binance par exemple, ou si j'ai fait une cession avec une plus-value, je suis amené à la déclarer dans un imprimé CERFA 2086. Bon, une fois que j'ai fait ça, quand je regarde cet imprimé et que je regarde la loi me dit que je dois déclarer et l'imprimé me dit que je dois aussi communiquer la totalité de mon portefeuille. Imaginons que j'ai fait une dépense de 1 500 € et que j'ai un portefeuille de 3 millions d'euros. Il faudrait que je communique à l'administration fiscale mon portefeuille de 3 millions d'euros. Le texte de loi, article 150 VHBIS, me le demande? Non. Est-ce que les impôts dans leurs commentaires me le demandent? Oui. Est-ce que c'est légitime? Je m'interroge. Pourquoi je m'interroge? Parce que si je ne le déclare pas, est-ce que les impôts sont perdants? Non. Le calcul de plus-value et le calcul de l'impôt se fait sur la déclaration de ma plus-value. Donc, je pose mon questionnement, mon énervement, mon agacement sous forme de question. Qu'est-ce que l'administration fiscale a à perdre que nous ne déclarions pas la totalité du portefeuille, parce que on a vu qu'il y avait des données qui se perdaient, pour des questions de sécurité, et je déclare, je suis honnête, ma plus-value. En fait, quand je cède un certain nombre d'autres actifs, je ne suis pas obligé de dire tout ce que j'ai. Et donc, la question qui est pendante, c'est est-ce que finalement tous les gens qui ont des cryptos sont présumés coupable de fraude?
Oui, c'est la question. Effectivement, quand on voit ce qui évolue et que ça évolue et que ça va de plus en plus loin, année après année. Question de sécurité aussi, enfin, Louis-Alexandre. Conserver sa CID, il y a de plus en plus de solutions.
Oui. Alors, on a tous connu, quand on avait une Ledger et qu'on ouvrait l'emballage, le petit carton sur lequel nous mettions au crayon les 24 mots. Et puis, on essaie de couper, d'en mettre un peu à droite, à gauche. C'est une possibilité, mais à mon avis, il faut aujourd'hui se poser d'autres questions. Mmh. Comme a su le dire Rémi Dalis sur ce plateau, un papier, ça résiste pas trop à un incendie, à une inondation, une chose comme ça. Donc, il existe des plaques en métal qui nous permettent de dire « je mets tout ou partie ». Et cette plaque en métal, je peux la mettre dans un coffre chez moi, dans un coffre à la banque. Première chose. Il existe aussi des choses que les gens oublient. J'ai des petits poinçons, j'achète des rondelles, un écrou et un boulon. Et en mettant mes 24 rondelles ou mes 12 rondelles, j'ai quelque chose qui ressemble strictement à rien. Ce n'est pas un grip hostile ou autre chose. Et pourtant, sur chaque rondelle, il y a un démo avec un numéro. C'est une manière originale de le faire.
C'est
ça
vrai.
Coûte beaucoup, beaucoup moins cher que des crypto hostiles. Je vous le donne en mille. Il existe aussi des systèmes comme Ledger a proposé une carte qui s'appelle une recovery card, qui va par puce RFID se connecter à votre Ledger et uniquement à votre Ledger, sur lesquels vous pouvez avoir là aussi les 24 mots. Et là, ils ne sont pas visibles, par exemple. Et vous pouvez là aussi le mettre dans un coffre ou dans le coffre d'une banque. Satoshi a fait un peu la même chose avec ce qu'on appelle le Seed Keeper. Et puis, quand même, je ne peux résister, puisque j'étais encore la semaine dernière avec des notaires, et cette année, je vais avoir peut-être 200 ou 300 notaires qui vont passer entre mes mains de formateurs, à utiliser le testament sous forme décentralisée. En fait, vous pouvez faire trois types de testament. Holographe, c'est-à-dire c'est de votre main, authentique, avec deux notaires, et mystique, c'est la fameuse enveloppe dans laquelle on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Eh bien, une possibilité assez simple, je fais un testament holographe avec mon notaire, sur lequel je lui dis un petit peu le jeu de piste, je mets une partie de la CID dedans, une autre partie dans un testament mystique chez un notaire numéro 2, une autre partie chez un autre notaire avec la partie numéro 3, mes héritiers peuvent avoir la partie numéro 4, et en cas de décès, il y a le fichier des dernières volontés qui est interrogé et qui ramène tout chez le notaire qui ouvre la succession.
Question de Maxime Zé.
Oui, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis dans le monde des cryptos, je pense, mais j'ai l'impression qu'on a changé de monde où, à l'époque de FTX, on avait l'impression que c'était beaucoup plus sécurisant d'avoir ces cryptos sur une clé Ledger, sur une seed phrase, que sur une plateforme. Et aujourd'hui, dans le monde de Mika, où tout commence à être régulé et où il devient encore plus compliqué de détenir ces cryptos en self-custody, notamment pour des questions fiscales, puisque bientôt il va falloir peut-être déclarer ses cryptos sur sa clé Ledger. J'ai l'impression que ça devient presque avantageux, voire plus simple, de détenir ses cryptos sur une plateforme.
Eh bien, c'est une insulte faite au travail de Satoshi Nakamoto. Je ne peux dire que cela. Alors après, que vous déteniez du Dogecoin ou autre chose sur une plateforme, oui, alors là, je vais vous dire, il n'y a pas de sujet. Mais concernant Bitcoin, quand on regarde les écrits, je reviens à mon premier sujet, c'est quelque part insulter tout le travail, puisque ce qu'il veut au départ, Satoshi, c'est nous proposer quelque chose sur lequel on est souverain. Eh bien, si on est souverain avec un bout de papier, rien n'empêche d'utiliser une technologie pour être souverain avec une carte, une memory card, avec autre chose. Je sais que c'est contraignant, mais on a des portefeuilles au début qui étaient de quelques dizaines de milliers d'euros, qui parfois sont devenus quelques centaines de milliers d'euros, et puis quelques millions. Comprenez que à 100 000 euros ou à 5 millions, j'utilise pas les mêmes outils.
C'est effectivement une stratégie, quoi qu'il arrive, qui n'a pas été utilisée pour le moment par la grande majorité des détenteurs.
Non, 8 à 10%.
Mathématiquement, donc ça veut dire qu'il faut encore les convaincre.
Ce sont des gros portefeuilles quand même aussi.
Faire de la pédagogie, effectivement. Chacun est l'investisseur. Il faut se connaître en tant qu'investisseur à ce niveau-là. On voulait parler du Bhoutan aussi, qui se déleste de ses crypto-monnaies pour financer ses infrastructures. C'est un très bon article de Pauline Armandet sur ce plateau, qu'on pourra retrouver sur le site bfmbusiness.com. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission Le Club BFM Crypto. Jonathan Erskovici, fondateur de Stackinsat, Louis-Alexandre de Froissart, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrick Moine, Maxime Eusé, journaliste à la Tribune, et Pauline Armandet, journaliste à BFM Business. Beaucoup de monde, beaucoup de sujets, mais on est ravis évidemment tous les jours de faire cette émission sur les cryptos, vous donner les bonnes infos. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. We'll be right back.
BFM Business, BFM Crypto, le club.